Que Dieu vous bénisse. On va prier. Seigneur, bénissons ton nom, Père. Occasion encore de rassembler ce soir, corps Dieu, être à tes pieds, Père, écouter ta parole pour nous instruire, pour nous éclairer et surtout nous aider à marcher, ô Dieu, selon ta volonté. Pardonne nos offenses, ô Dieu, nous ne sommes que des humains avec nos faiblesses et nos insuffisances, mais seule ta grâce, ô Dieu, nous aide à marcher et à tenir debout. Conduis-nous, Père, pour la suite. Reçois honneur, louange et gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. On va continuer. Donc, on part toujours de notre schéma où on est à Gilgal. Et de Gilgal, on va vers au-delà du Jourdain. Donc, pour Élie, il va être enlevé et Élisée va revenir. Donc, on part de Gilgal, on a Bethel et on a Jéricho. Ensuite, on a le Jourdain. Et Élie devait traverser le Jourdain. J'ai été amené à revenir un peu, parce qu'on ne peut pas parler de circoncision s'il n'y a pas de naissance, et on ne peut pas parler de naissance s'il n'y a pas eu conception. Et donc, on avait vu la fois passée que on avait vu que les enfants d'Israël sont partis de Ramsès, jusqu'effectivement à Gilgal. C'est là qu'ils ont eu la Pâque et la circoncision. Et on avait beaucoup parlé du sang. C'est vraiment le thème principal. Et c'est vraiment quelque chose de capital parce que tout passe par le sang. Absolument tout. Du moins pour ce qui concerne la vie. Et de là, aujourd'hui, on va un peu parler justement de cette alliance entre l'homme et la femme. Donc le titre sera « De Gilgal à la gloire, l'alliance de l'homme et la femme, première partie ». Parce qu'on ne va pas terminer. On va se lever pour lire. On va lire dans Éphésiens, chapitre 5, de 16 à 33. Il est un peu long, mais « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Dieu. » Soulignez, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Soulignez, femmes, soyez soumises. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes doivent aussi l'être, doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par les baptêmes d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Souligné, les maris doivent aimer leur femme. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Souligner ce mystère est grand. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. On va prier. Père, nous avons besoin de ton esprit pour nous éclairer afin de sonder les profondeurs de ces passages. Éclaire-nous, Père, et instruis-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Donc, je disais, on est parti du schéma Gilgal vers au-delà du Jourdain. Et la fois passée, nous avons vu que l'alliance est scellée par le sang. Donc, on avait parlé de la Pâque et de la circoncision. La Pâque, c'est lorsqu'ils sont sortis, et la circoncision, lorsqu'ils sont rentrés dans la terre promise. La Pâque, lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte. On ne peut pas parler de circoncision s'il n'y a pas de naissance, je disais tout à l'heure. Et c'est important de savoir que sans la naissance, sans l'alliance, on ne peut pas parler de naissance. Donc on doit pouvoir remonter au niveau de l'alliance. On va pouvoir remonter au niveau de l'alliance. Et donc aujourd'hui, nous allons voir un peu sous un autre angle le cheminement des enfants d'Israël de l'Égypte vers la terre promise. Comme on l'avait vu la fois passée, donc ici j'ai oublié quelque chose, il y a la mer Rouge. Leur déplacement, ils ont traversé deux grands cours d'eau. C'est la mer Rouge et le Jourdain. Remarquez, il est parlé de la mer Rouge parce qu'il y a un problème de sang. Bien. Donc, il y a, j'en avais parlé, il y a une forte analogie entre la traversée des enfants d'Israël et la grossesse de la femme. J'avais un peu parlé de ça très brièvement. Et cela nous montre que Dieu est vraiment l'auteur. Et si vous voulez aller réécouter les messages de la fois passée, donc on avait vu que entre Ramsès et Gilgal, il y a 42 étapes. Et la grossesse pour la femme, à partir des dernières règles, on avait vu que c'était 42 semaines. Donc il y a 42 semaines d'aménorrhée. C'est un terme un peu technique, mais bon, ça ne nous concerne pas trop. On comprend de quoi on veut parler. Donc on voit vraiment qu'il y a une ressemblance. Je ne vais pas rentrer dans les détails. On peut même voir ce que signifie, en fait, lorsqu'ils sont arrivés au mont Horeb. Mais ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas le but pour aujourd'hui. Et donc, quand on voit ça, il est difficile de comprendre que les gens ne croient pas en Dieu. Il est vraiment très difficile, parce que l'œuvre de Dieu se voit comme à l'œil nu, quoi, hein, dans sa nature et dans ses principes. Je retiens ici deux façons de comprendre l'œuvre de Dieu. C'est soit par l'observation, c'est ce que la science fait. La science est basée sur l'observation, ensuite ils font des expériences. Et il y a la révélation. Ça, c'est Dieu seul qui reste maître de cela. Et même dans la compréhension des choses, lorsqu'on observe, c'est Dieu qui éclaire. Donc, on avait vu que la mer rouge typifiait la mort. Le Jourdain, c'est la vie ou la naissance. Et la naissance, on peut voir ça aussi sous deux angles. Ça peut être la résurrection ou alors la renaissance. C'est toujours l'idée de naissance qui est derrière. Donc l'entrée en terre promise est comme une naissance et le cheminement des enfants d'Israël dans les déserts est comme en fait la grossesse. Toutes les épreuves qu'ils ont connues dans les déserts peuvent être comparées aux douleurs que les femmes, souvent qu'ils ont, lorsque des douleurs ou en tout cas comment faut-il dire ça, indisposition, merci frère Benoît, indisposition qu'ils ont pendant leur grossesse. On peut comparer à cela. Et c'est pourquoi le corps de la femme, autant que la femme elle-même, a un mode de fonctionnement plus complexe et délicat, car le mystère de la vie s'accomplit en elle. Nous en reparlerons une autre fois. Donc la grossesse procède de l'union de l'homme et de la femme, c'est-à-dire de l'alliance entre l'homme et sa femme. En conséquence, l'alliance de l'homme et de la femme est l'alliance terrestre la plus élevée qui soit, au point où l'apôtre la compare à l'alliance spirituelle entre Christ et son épouse. Cette dernière, donc l'alliance entre le Seigneur et son épouse, est l'antitype en fait de l'alliance entre l'homme et sa femme. Et l'apôtre, comme on a lu, dit que ce mystère est grand. Puisque c'est un mystère, il est de notre devoir de le sonder. Si on va lire dans Proverbe 5, verset 2, il est dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses, et la gloire des rois, c'est de sonder les choses. C'est quoi sonder? C'est explorer quelque chose par divers procédés pour en reconnaître l'état ou pour découvrir ce qui est caché, enfoui. Ça, c'est le dictionnaire qui nous donne ces définitions. Mais il y a une autre définition que j'aime plus que celle que je viens de donner. Sonder, c'est interroger discrètement quelqu'un pour chercher à connaître sa pensée. Je reprends, sonder, c'est interroger discrètement quelqu'un pour chercher à connaître sa pensée. Et c'est ton droit d'aller interroger discrètement Dieu pour chercher à connaître sa pensée quant à ses mystères. On va lire Matthieu 6, 6, donc Matthieu chapitre 6, verset 6. Entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Dieu qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Il n'y a personne qui va t'expliquer le mystère du mariage. Il faut que tu ailles toi-même consulter Dieu. On peut donner beaucoup de conseils, on peut dire beaucoup de choses, mais tu dois toi-même aller consulter Dieu pour qu'il te dise ce qu'il en est. Tu vas me dire que c'est au roi qu'on s'adresse et non pas à toi. Kenani. Allons dans Apocalypse, chapitre 5, verset 10. Jean, aux sept églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des sept esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous des rois et des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. On vient de lire « Qui a fait de nous des rois et des sacrificateurs ». Si tu es certain que celui qui nous aime t'a délivré de tes péchés par son sang, alors il a fait de toi roi et sacrificateur. C'est donc ton droit en tant que roi de chercher à sonder les profondeurs de Dieu. Comment le faire? On va lire dans 1 Corinthiens 2, 9, 11. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. C'est par son Esprit que Dieu révèle ces choses. Donc, l'Esprit de Dieu est au centre de la révélation. Sans lui, il n'y a pas de révélation. Ce qui veut dire que quand l'homme et la femme comprendront par l'Esprit l'essence de cette alliance, de ces mystères, à l'homme ne ferait rien qui porterait préjudice à sa femme. Et la femme ne ferait rien qui porterait préjudice à son mari. Le « nous » remplacerait le « moi » car vous fonctionnez non pas en duel, mais en duo. Allez écouter ce que le frère François a dit dimanche concernant la vie de mariage, car vous êtes un couple. Il avait dit, si tu veux voyager pour une longue période, prends avec toi ta femme. Mais laissez-moi ajouter encore d'autres considérations que ce n'est pas seulement une longue absence qui crée des brèches dans la fondation. En effet, il n'est pas nécessaire pour l'homme de voyager, car il peut arriver qu'il est tout simplement absent tout en étant présent. S'il n'y a pas ou s'il n'y a plus de dialogue, ni de connivence, ni cette amitié qui doit exister entre l'homme et sa femme, alors il y a un problème. Quand l'homme se sent mieux ailleurs que chez lui, il y a un problème. Quand un homme préfère flâner dehors ou préfère plus causer avec d'autres femmes que sa propre femme, il y a un problème. Quand un homme néglige les besoins physiques, émotionnel, spirituel de sa femme, c'est une porte ouverte à des frustrations et à des tensions qui peuvent aller jusqu'à l'infidélité et au divorce. Ces frustrations et ces tensions sont la principale cause d'une spiritualité misérable et hypocrite. Tout ce qui est dit de l'homme est aussi vrai de la femme. Il suffit de remplacer l'homme par la femme dans ce qui vient d'être dit. Sachez donc à quoi vous vous engagez. C'est pourquoi Dieu donne le secret d'une spiritualité épanouie. Nous n'allons pas entrer en détail de cela, mais je vais relever juste quelques points qui peuvent nous aider. Nous y reviendrons à une autre occasion si Dieu nous le permet. Donc, dans les passages qu'on vient de lire d'Éphésiens, Dieu parle spécifiquement des termes de l'alliance du mariage. Mais avant d'arriver à ça, au verset 18, Dieu s'adresse, ou l'apôtre s'adresse individuellement avant de s'adresser, pardon, individuellement à la femme et à l'homme, l'apôtre nous exhorte à être rempli de l'esprit. Être rempli de l'esprit, c'est le point de départ de tout. L'importance de l'esprit. Ce qui veut dire que rempli de l'esprit de Christ, le Saint-Esprit nous rend capables d'obéir aux instructions que l'apôtre Paul va développer dans la suite de son épître. Car il y a un mystère à sonder. Et comme on venait de le voir, sans l'Esprit de Dieu, on ne peut pas sonder ces mystères. Quand on descend, l'apôtre dit de se soumettre les uns aux autres dans la crainte de Dieu. C'est ce qu'on a lu. Là, il parle en général à tout le monde, hommes et femmes. Il y a trois façons de se soumettre. Peut-être il y en a d'autres. J'ai relevé juste trois ici. On peut se soumettre par contrainte, on peut se soumettre par intérêt, soit on peut se soumettre par amour. Et la voie par excellence, c'est la voie de l'esprit, la soumission par amour, l'amour agapé. Et la question reste toujours, sans l'esprit, comment peut-on se soumettre par amour aux autres ? Celui qui se soumet par contrainte n'est pas dans l'amour. Et celui qui soumet l'autre par contrainte n'est pas non plus dans l'amour. Celui qui se soumet par intérêt n'est pas dans l'amour. Et celui qui soumet l'autre par intérêt n'est pas non plus dans l'amour. Une des formes que tout cela peut prendre, c'est la manipulation ou le chantage. Ça, c'est ce qu'on trouve dans la plupart des relations et souvent ça finit par se briser quand l'autre se rend compte qu'il est floué. Ensuite, l'apôtre va expliciter sa pensée dans le cadre du mariage, car le foyer, la famille est la base de toute société et le mariage est une institution divine. En tant qu'institution divine, elle a ses lois et ses règles prescrites par Dieu. Et des institutions fortes garantissent une nation forte et stable au sein de chaque foyer. Dieu étant au sein de chaque foyer, ce qui signifiera que le foyer sera stable et l'Église aussi sera stable, parce que l'Église est composée de foyers. Et en chaque foyer, Dieu doit être honoré. On n'a pas besoin de dictateurs, mais des institutions fortes. Car lorsque ces dictateurs disparaissent, c'est souvent le chaos après eux. On a vu ça ici en Belgique. La Belgique est un pays avec des institutions assez fortes. Tout le monde essaye de respecter la loi. On a vu ça qu'il y avait, je crois, ça se fait combien d'années ? Il y a peut-être 8 années, où la Belgique n'avait pas de gouvernement pendant 541 jours. Et le pays a continué à fonctionner comme si de rien n'était. C'est parce qu'il n'y a pas des hommes forts, c'est plutôt des institutions fortes où chacun essaye de respecter la loi. Et dans le royaume de Dieu, la loi qui existe, c'est la loi de l'amour. On n'a pas besoin de l'amour de la force, mais on a besoin de la force de l'amour. Bien. Après avoir introduit ça, l'apôtre introduit se soumettre les uns aux autres dans la crainte de Dieu, l'apôtre va maintenant s'adresser aux femmes. Alors l'apôtre, il dit quoi ? Il dit qu'il donne un certain modèle à suivre. Et le modèle qu'il donne, c'est l'Église. On sait qu'un modèle est un plan à suivre pour construire quelque chose. C'est un exemple qui est mis devant nous pour être reproduit, en tout cas, avoir quelque chose sur lequel on peut s'appuyer pour son propre comportement ou alors pour construire quelque chose. C'est vraiment... comment faut-il dire ça ? C'est un point de référence Et chaque fois, tu dois te comparer à ces modèles pour voir si tu arrives à reproduire ce que les modèles te disent de faire. Donc, je disais que l'apôtre s'adresse maintenant aux femmes. Mais ces femmes, comment auront-elles connaissance de modèles? Parce que on ne peut pas appliquer un modèle qu'on ne connaît pas. Et la seule façon de comprendre un modèle, c'est l'observer, l'étudier, le comprendre. Et au-delà de tout, on a besoin, du moins dans le cadre qui nous concerne, on a besoin de l'Esprit de Dieu. C'est en méditant la parole de Dieu et en faisant d'elle leur délice, c'est par la conduite du Saint-Esprit, car si elles sont enfants de Dieu, elles sont conduites par le Saint-Esprit. Et Dieu dit qu'elles se soumettent à leur mari. Alors la question qui m'est venue à l'esprit, pourquoi ce sont elles qui doivent explicitement se soumettre dans les mariages, alors que nous avons lu tout haut? Soumettez-vous les uns aux autres. La raison est simple. Dans toute institution ou dans toute structure ou organisation, il faut qu'il y ait un chef pour la bonne marche de celle-ci. Et Dieu a décidé souverainement que c'est le mari qui est le chef. Si vous voulez savoir pourquoi, allez sonder Dieu. Et là, les féministes risquent de monter au créneau. Ce n'est vraiment pas mon problème. En plus, l'homme a été créé le premier. Et si l'homme a été créé le premier, ça veut dire qu'il est l'aîné. Et étant l'aîné, il a naturellement les droits d'aînesse. Allez réécouter le message de dimanche. Le frère François est resté longtemps sur les droits d'aînesse avec Ruben, le premier-né de Jacob. Même la langue française nous y aide. Hein? On dit mariage. Mari et puis âge. Donc le mari est âgé. Hein? Le mari est âgé. C'est pourquoi ça choque souvent de voir une dame mariée à un jeune homme avec un grand écart. Ce n'est pas dans l'ordre naturel des choses. Alors que ça l'est moins dans les cas contraires. Regardez le président Macron et sa femme Brigitte d'un côté, et de l'autre, regardez Trump et sa femme Melania. Alors, cher mari, ne perdez pas votre droit d'aînesse en la vendant, comme l'a fait Esaïe, par des comportements irresponsables et inconsidérés. Notez, même si la femme est plus âgée que son mari, celui-ci reste le chef des droits divins, car sa position de mari lui confère cela automatiquement. Alors, jeune sœur, ne te marie pas avec un homme irresponsable. Tu vas souffrir. Et ne te marie pas avec un homme dont tu sais bien que tu ne voudras jamais te soumettre à lui. Bien. Une des faiblesses de la femme, c'est d'être curieuse. Pas toutes, heureusement, mais en général. Elle veut tout savoir. Elles ont hérité cela d'Ève. Elles veulent être au courant de tout, même jusqu'à aller chercher la connaissance là où il ne fallait pas. Et le serpent savait cela. Il est venu lui proposer une nouvelle lumière. Elle aurait dû s'en référer à son mari au lieu de prendre l'initiative de s'ouvrir à cette nouvelle lumière que le serpent lui apportait. Ce qui se révéla fatal pour le couple et pour l'humanité. À cause de cela, Dieu va dire que les désirs de la femme se porteront vers son mari. Ça, c'est dans Genèse 3:16, parce qu'elle a porté ses désirs ailleurs. Ce n'est pas le sujet. La Bible dit à la femme, et non pas à l'homme, qu'elle se soumette. J'insiste bien, la Bible dit à la femme. Et l'homme ne doit pas aller répéter à sa femme, « Soumets-toi ». Non. Non. La Bible dit à la femme, expressement, se soumettre est un acte volontaire. Elle doit elle-même se soumettre, sans contrainte, sans pression, mais par amour. Ce qui veut dire que cela exige d'elle de mourir. C'est pourquoi on est en train de voir la mort. C'est le début de la marche, hein, la mort. Ce n'est pas toujours facile d'accepter cela, car elle est semblable à l'homme. Hein. Elle n'est pas différente de l'homme. Elle peut arriver à accepter beaucoup de choses, mais les choses se compliquent lorsque, pour des choses importantes, son point de vue diffère de celui de son mari. Et Dieu dit désormais que la femme se soumette à son mari, car la première fois qu'elle a pris les devants dans le jardin, elle a tout foutu en l'air. Et les femmes, jusqu'à aujourd'hui, ont besoin, Dieu a voulu qu'ils aient une certaine une couverture. On reviendra sur ça. Remarquez, le péché n'a été nommé péché que quand Adam a mangé les fruits. Quand Ève a mangé, Dieu n'est pas descendu. Dieu n'est pas descendu justement parce que quand le responsable ne se tient pas correctement, il entraîne toute ta maison dans le désordre. Et ici, Adam a laissé la place, en tout cas, il n'a pas veillé sur Ève pour qu'elle en arrive là. Et par amour, il a dû manger ses fruits. Et quand Dieu est descendu, il est venu trouver les responsables. Il n'est pas allé à la femme. Il est allé trouver Adam. Nous parlerons un jour de l'amour d'Adam pour sa femme. Était-ce un reproche à la femme? Non. Dieu savait que cela arriverait ainsi. Il n'était pas surpris. Tout cela pour manifester ses attributs de sauveur. Frère Branham en a parlé dans plusieurs messages. L'apôtre ajoute que la femme respecte son mari. Ce n'est pas évident, puisqu'elle connaît tout de son mari, ses points forts et ses points faibles. Le mari est nu devant sa femme au propre comme au figuré, et vice-versa. Il n'y a personne qui connaît mieux la nudité de l'homme si ce n'est sa femme. Et cette nudité le rend vulnérable. Ça veut dire que le mari est un roi, mais un roi vulnérable. Quelqu'un disait, il n'y a pas plus vulnérable qu'un homme nu. Puisque l'homme est faible devant sa femme de par cette vulnérabilité, il est important à la femme de ne pas exposer son mari ou de le rabaisser. Car un roi blessé peut être dangereux. On reviendra sur la femme. Hein? La femme doit être assez mature et spirituelle pour qu'elle ne se serve pas de cette vulnérabilité dans un conflit avec son mari. Ça, c'est souvent, ça arrive dans des cas de divorce, qu'elle n'oublie jamais que le mari est son chef et qu'elle lui doit du respect. Pour ne pas en arriver là, elle doit mourir à elle-même. C'est la chose la plus difficile pour nous tous, mourir à nous-mêmes. Et je disais, l'aide ne vient que de Dieu et pas de quelqu'un d'autre. Car naturellement, personne n'aime mourir. Pour que quelqu'un arrive à envier la mort, c'est quand il est dans des situations très très difficiles, qu'il n'a plus vraiment envie de vivre. Or, généralement, quand tu es en bonne santé, tu n'as pas envie de mourir. Et c'est pourquoi c'est un grand problème pour l'homme lorsqu'il écoute la parole de Dieu de mourir. Et Dieu envoie les épreuves hein, pour briser, justement, jusqu'au point où tu dises, Seigneur, je veux vraiment mourir. Alors tu meurs. Parce que autrement, comme on disait, tu montes sur l'autel, c'est très chaud, puis tu redescends, tu pars. C'est pourquoi Dieu dit, soyez remplis de l'Esprit. Il est donc important que la sœur cherche la face de Dieu en cette matière afin d'épouser un enfant de Dieu et qu'elle-même soit une fille de Dieu. Le temps est avancé. On va bientôt finir. Chère sœur, notez la manière, je vais reprendre, je vais lire très lentement, la manière dont un homme se sent aimé, c'est de lui montrer du respect. Ceci est très important. Je le répète, le langage d'amour que l'homme comprend le mieux dans son univers, c'est le respect. C'est même un besoin pour lui. J'irais même jusqu'à dire que le premier besoin de l'homme n'est pas l'amour, mais c'est le respect. Je reprends, le premier besoin de l'homme n'est pas l'amour, c'est le respect. Nous parlerons un jour en profondeur de la différence de nature entre l'homme et la femme en regardant cela dans la Bible. Qu'en est-il de Marie? L'apôtre donne au mari un autre modèle, c'est Christ. Nous en parlerons la fois prochaine si Dieu le veut. On va prier. Bien-aimé Père, nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de ton esprit, Père, pour comprendre les mystères, ô Dieu. Il n'y a que toi qui peux nous expliquer ces mystères. Beaucoup de choses peuvent être dites, Père, mais si toi tu ne viens pas révéler la chose, alors nous ne comprendrons rien. C'est pourquoi nous te prions, ô Dieu, de nous aider, de nous assister, Père éternel, ô Dieu, dans notre marche. Et comme il nous est parlé de cette mort à soi, c'est toi-même qui nous conduis dans cette mort. Aussi, soutiens chacun, Père éternel, dans nos combats, dans nos difficultés, et incline nos cœurs, Père éternel, ô Dieu, à l'obéissance, incline nos cœurs à t'honorer. Nous bénissons ton nom et nous te rendons grâce, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen.